Et Sébastien, bonsoir.
Bonsoir à tous. Ces pesticides qui nous rendent malades à la une ce soir. L'INSERM ajoute au moins deux pathologies à celles qu'on connaissait déjà en lien avec l'activité professionnelle. Troubles cognitifs et une maladie respiratoire. Les détails dès le début du journal. Le variant Delta sous haute vigilance du gouvernement. Les Landes ne déconfinent pas aujourd'hui comme le reste du pays. La vaccination semble repartir. Au sommaire également ce soir, un nouveau procès et de nouvelles peines pour les Balkany. L'égalité femmes-hommes au centre de la conférence de l'ONU à Paris. Pogacar le plus rapide en contre-la-montre sur le tour. Van der Poel reste en jaune. Alaphilippe est quatrième au général. Et puis au téléphone sonne Fabienne, la PMA pour toutes.
Et oui, qui a été votée hier, la fin d'un très long processus parlementaire, un épilogue qui permet désormais donc aux femmes seules et aux couples lesbiennes d'accéder à la PMA. Dans la pratique, ça peut être plus difficile. Est-ce qu'il y aura assez de dons de sperme? Est-ce que le don de sperme sera désormais plus compliqué parce qu'il n'est plus anonyme? On en parle ensemble au 01 45 24 7000.
Et c'est à 19h20.
France Inter.
Ils étaient déjà mis en cause dans trois types de cancers et dans la maladie de Parkinson. Les pesticides sont donc désormais montrés du doigt dans au moins deux pathologies supplémentaires en lien avec l'activité professionnelle. D'après une vaste étude de l'INSERM, l'Institut de la Santé et de la Recherche Médicale, 3 ans de travail, 1 millier de pages. Bonsoir Célia Kyrène.
Bonsoir Sébastien.
Les pesticides, Célia, peuvent jouer un rôle dans les troubles cognitifs et une maladie respiratoire évolutive.
Oui, cela concerne notamment les agriculteurs, mais pas seulement. Cette étude montre un lien entre l'utilisation de ces pesticides et des pathologies graves, altération de la mémoire, du raisonnement, ça peut aller jusqu'à la démence, et des maladies respiratoires évolutives comme la BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, très invalidante, ou la bronchite chronique. Xavier Koumoul, toxicologue à l'Université de Paris, expert sur le sujet, insiste également sur les dangers de ces pesticides pour les enfants.
Sur les troubles cognitifs, clairement, il y a plus de données chez les enfants. On a un lien de présomption qui est fort vis-à-vis, par exemple, des troubles anxio-dépressifs chez les enfants. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on arrive à identifier. C'est des enfants qui, évidemment, sont exposés du fait, par exemple, de la grossesse. C'est-à-dire qu'on a une exposition pendant la grossesse des mamans. On a une présomption d'un lien qui est fort également sur les altérations des capacités motrices, cognitives, sensorielles. Alors cognitives, c'est tout ce qui va être attention, réflexion, concentration. Ça, c'est quelque chose qui est important.
Et certains enfants peuvent même développer des leucémies aiguës si leur mère a été exposée à des pesticides pendant la grossesse. Et il peut y avoir un lien aussi si le père a été au contact de ces produits avant de concevoir l'enfant. Dans cette vaste étude, l'INSERM s'est intéressé à des herbicides, insecticides, fongicides, toujours utilisés, et à des produits interdits. Mais attention, ces molécules ont des effets tardifs sur l'environnement. Pour Xavier Koumoul, il faut donc éviter de pulvériser des pesticides près des habitations ou des écoles. Les chercheurs le disent bien, les utilisations anciennes de pesticides, désormais interdits, font les maladies d'aujourd'hui.
Et l'INSERM, merci Célia Kyrène, on appelle indirectement au pouvoir public dans cette étude pour qu'il tienne compte de ses conclusions.
La dernière étape du déconfinement est reportée dans les Landes.
Reportée au 6 juillet parce que l'ombre du Delta plane sur la France. C'est dans ce département qu'il est apparu en premier. Et c'est ce département qui est le plus touché du pays. Taux d'incidence autour de 50 pour 100 000 habitants. Alors qu'il est à 18,5 dans le reste de l'Hexagone. 7 foyers dans les Landes, 5 en entreprise et 2 dans des EHPAD. Les dernières restrictions, jauge à 65% au cinéma, à 50% au restaurant, restent donc en vigueur encore une semaine au moins, alors qu'elles sont levées dans le reste de la France. Les Landennes sont pas ravis, comme Mohamed Chora, qui gère 2 bars à Mont-de-Marsan. Audrey Abraham, France Bleu Gascogne, l'a rencontré.
Quand il a ouvert ses établissements ce matin, Mohamed a réuni son personnel pour faire le point sur ce qu'il pensait être les nouvelles mesures en vigueur.
Voilà, les règles au 30 juin, c'est ça et ça. À peine expliqué, la note arrive et hop, on a dit, tout ce qu'on a dit, vous l'oubliez. Donc ce qui fait le personnel était un peu déboussolé.
Déception et surtout incompréhension.
Le président de la République a fixé une limite à 50, on est à 48, donc nous on ne comprend pas. C'est les restaurateurs encore une fois qui bouffent. Fermer, ouvrir, faire ça, on est des petits élèves. La responsabilité, c'est pas nous. Pour le moment, on est un peu en colère, oui.
Des groupes de plus de 6 clients, il en avait dans ses réservations.
On a tous les jours des réservations pour des grandes tablées. Mais là, ce matin, on leur a dit, c'est pas possible, il faut attendre encore 6 jours. Mais les gens, ils râlent. Ils disent, ouais, mais pourquoi dans les Landes et pas ailleurs?
Justement, parmi les clients, en terrasse, David attend ses collègues un verre à la main.
Par exemple, on va être 8 ou 9 et à mon avis, on va être séparés puisque c'est des tables de 6 maximum.
Et aucun ne comprend la différence de traitement avec le reste de la France.
Ça va nous embêter, oui, parce qu'on est un des seuls départements
département du coup à être dans ce cas-là.
En plus, on comprend pas trop, vu qu'on était un des seuls départements à être bien, que ça arrivait d'un coup.
Un peu plus loin, avec le sourire, Justine crie à l'injustice.
C'est quoi ça, ce favoritisme?
L'étudiante avait prévu de se réunir ce week-end avec un grand groupe d'amis.
Franchement, c'est chiant. Il n'y a plus de convivialité, il n'y a plus rien. Il y a des règles à respecter, ça commence à devenir un peu lourd quand même.
Patience, lui répond l'un d'eux, il faut faire avec, on n'est plus à une semaine près.
Globalement, le taux d'incidence ne baisse plus en France, mais le nombre de rendez-vous pour se faire vacciner est reparti à la hausse, d'après le gouvernement, comme au CHU de Limoges, qui propose des vaccins sans rendez-vous depuis quelques jours. 4 jours d'opération porte ouverte qui connaissent un beau succès. Reportage Thomas Vinclair, France Bleu Limousin.
Tu sens comment pour la vaccination? Bien. Ben c'est bon, on peut y aller alors.
Première injection pour Agathe. Hop. La jeune fille est venue.
Sans rendez-vous. C'est que j'ai accompagné ma sœur, donc j'en ai profité pour pouvoir faire vacciner, pour pouvoir partir en vacances. Je pars faire un tour de l'Europe du Nord avec une amie. Donc changement de plusieurs pays, donc ça facilite énormément.
Et comme Agathe, ils sont de plus en plus nombreux à venir au CHU pour leur premier vaccin.
Les personnes qui viennent sans rendez-vous sont en train d'augmenter.
Une bonne nouvelle pour Martine Tenant, l'infirmière en charge de l'organisation du centre de vaccination, car il faut dire que ces dernières semaines...
Ça commençait à baisser là, énormément. Oui, oui, les rendez-vous étaient en chute libre là. Parce qu'en fait, les gens n'arrivaient pas à prendre des rendez-vous, puis les gens étaient moins motivés. Alors maintenant, comme ils voient qu'ils vont être obligés pour les spectacles, les choses comme ça, d'être vaccinés, ils reviennent. Du coup, le fait qu'ils sachent qu'ils peuvent venir sans avoir de rendez-vous, ben, ils n'hésitent pas à venir.
Pour le médecin hygiéniste Elodie Couvédicon, ce retour des candidats au vaccin est aujourd'hui essentiel pour se débarrasser du virus.
C'est important que dans la population, on atteigne un niveau de vaccination suffisant, autour de 85%, parce qu'on sait qu'à partir de ce seuil de vaccination, on arrive à arrêter en fait la transmission dans la population du virus.
Et la professionnelle de santé qui le rappelle, face au virus et notamment le variant Delta, il faut une vaccination complète à 2 doses pour être un maximum protégé.
Et Jean Castex fait savoir qu'il va lancer une concertation sur la vaccination obligatoire des soignants dans les jours qui viennent avec les élus locaux et les présidents de groupes parlementaires. Un pays ne dit rien ou presque de sa situation face à la pandémie et ne dit rien tout court d'ailleurs en général, c'est la Corée du Nord. Les dernières fuites qui nous parviennent, c'est un leader, Kim Jong-un, présenté comme amaigri, et le limogeage de plusieurs hauts responsables du régime à cause d'un incident grave lié au Covid. Tout cela, elle signe que l'épidémie fait aussi des ravages à Pyongyang. D'après Antoine Bondaz, spécialiste de l'Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique, il est avec Christian Chéneau.
Officiellement, on reste sur 0 cas, 0 décès. On a l'impression que certains militaires haut gradés auraient été limogés. Ils auraient pu être limogés pour des affaires qui n'ont pas un lien direct avec des contaminations. Mais par exemple, avec la mise en œuvre de certaines mesures, l'armée devait notamment redonner une partie de ses stocks alimentaires à la population et elle ne l'aurait pas fait. Alors, il faut être très clair, aujourd'hui, le système de santé nord-coréen ne permettrait pas de faire face à une flambée épidémique comme on a pu en avoir en Europe ou aux États-Unis. Et c'est notamment parce que les conséquences sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan in fine politique seraient considérables que le pays met en œuvre des mesures de restriction et des mesures de prévention extrêmement strictes. Ces mesures, elles vont perdurer et elles vont même peut-être se renforcer encore un peu plus avec les contrôles à la frontière.
Et puis à Moscou, Vladimir Poutine demande aux Russes d'écouter les experts et pas les rumeurs et de se faire vacciner. Il assure, lui, qu'il a reçu le vaccin russe Sputnik V en mars et en avril.
Il y aura bien un nouveau procès Balkany.
La Cour de cassation confirme qu'Isabelle et Patrick Balkany sont coupables de blanchiment de fraude fiscale aggravée, mais elle annule les peines pour des questions de droit, 4 et 5 ans de prison, 1 million d'euros de dommages et intérêts à l'État et la confiscation de son moulin de Giverny. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
La justice, Ariane, va devoir prononcer de nouvelles peines.
Oui, la Cour de cassation a noté plusieurs points dont elle juge qu'ils ne sont pas conformes au droit. D'abord sur la confiscation du moulin de Giverny dans l'Eure. Ce sont les époux Balkany qui l'occupent, mais ils n'en sont pas propriétaires. Officiellement, la demeure appartient à leurs enfants. La Cour de cassation estime donc que légalement, il est impossible de saisir la propriété et en quelque sorte punir les enfants pour ce qu'ont fait les parents. Autre point remis en cause, la condamnation à verser 1 million d'euros de dommages et intérêts à l'État. Romain Dieudonné, l'un des avocats de Patrick Balkany.
La Cour d'appel a fixé de manière un peu forfaitaire et un peu aléatoire, si vous voulez mon sentiment, cette somme à 1 million d'euros, sans la moindre justification, motivation et sans le moindre début d'explication du chiffrage proposé et obtenu par l'État français. Et donc, comme cette somme au titre des dommages intérêt n'était pas motivé, la Cour de cassation fort logiquement l'a annulé.
Impossible de dissocier les condamnations à des dommages et intérêts ou les confiscations des peines de prison. Tout est donc annulé. Pas de date encore pour pour le nouveau procès, mais il ne va pas ressembler à l'audience de mai 2020. Il s'agira vraiment de points techniques sur les peines. La Cour a rejeté le pourvoi des époux Balkany sur leur culpabilité même. Le couple est donc définitivement condamné pour blanchiment de fraude fiscale.
Ariane Grissel, c'est la plus importante conférence internationale sur le sujet depuis 1995. Le forum Génération Égalité des Nations Unies s'est ouvert cet après-midi à Paris. Rendez-vous très attendu par les ONG qui demandent des engagements aux États, notamment financiers, pour une économie plus égalitaire, pour combattre les violences envers les femmes et pour soutenir les militantes. Le secrétaire général de l'ONU et la vice-présidente des États-Unis y participent en visioconférence. Et c'est Emmanuel Macron, Bertrand Galichet, qui donne le coup d'envoi.
Il y a urgence, dit Emmanuel Macron en ouvrant ce forum, car la pandémie a été marquée par un recul immense de la question de l'égalité, les femmes étant les premières victimes de la crise du Covid. Un virus antiféministe, dit-il, en parlant des millions de filles retirées de l'école, des femmes entrées dans la pauvreté et de l'explosion des violences conjugales. Un vent mauvais se remet à souffler dans beaucoup de nos sociétés, ajoute le président.
Il y a des forces réactionnaires, patriarcales, qui tentent de reprendre le pouvoir dans une forme de ce qu'on pourrait appeler une internationale du conservatisme. Je relisais une phrase dont je ne veux pas avec vous qu'elle soit prémonitoire, de Simone de Beauvoir, qui disait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. »
La situation des femmes dépend des libertés dans le monde, renchérit Kamala Harris, intervenant en vidéo depuis la Maison-Blanche.
Qui est blessé, meurtri, quand la démocratie ne tient pas ses promesses? Eh bien, les femmes et les jeunes filles font partie de ceux qui souffrent le plus.
Il faut travailler pour lever les obstacles qui empêchent les filles d'avancer dans le monde, conclut pour sa part Melinda Gates, la co-dirigeante de la fondation éponyme, plaide pour l'accès des femmes au cercle de pouvoir.
Voilà donc le président français en première ligne sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Manière pour l'Élysée de vanter son bilan en la matière.
Oui, les proches du président n'hésite pas à sortir les superlatifs. C'est l'occasion pour Emmanuel Macron de se poser en champion du monde de l'égalité femmes-hommes. Il se voit lui-même d'ailleurs, et on vient de l'entendre, comme un contrepoint à ce qu'il appelle cette internationale du conservatisme, la Hongrie d'Orban, la Turquie d'Erdogan, et en face donc la France d'Emmanuel Macron. Voilà la stature que veut se donner le chef de l'État en mettant en avant son bilan. Les quotas de femmes dans les comités de direction des entreprises, la lutte contre les pensions alimentaires impayées, les protections hygiéniques gratuites pour les sans-abri et les étudiantes précaires, le numéro 39, 19, 24 heures sur 24 pour les victimes de violences conjugales, l'ouverture, c'était hier soir encore, de la PMA à toutes les femmes. Emmanuel Macron a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de son quinquennat. Il sait qu'il sera jugé l'année prochaine, entre autres, sur sa politique sociale, face aux associations qui lui reprochent toujours, entre autres, d'avoir nommé Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, malgré les accusations de viol à son encontre. Eh bien, ce forum est pour lui le moment idéal de s'affirmer. Il l'a revendiqué tout à l'heure comme un président féministe.
Merci Simon Le Baron, et on reparle de la PMA pour tout au téléphone sonne, Fabienne.
Absolument, aider les agriculteurs en détresse.
Les suicides sont 30% plus nombreux que dans les autres professions. Alors les acteurs du monde agricole s'unissent pour apporter des réponses communes et pour mieux accompagner les exploitations en difficulté. Il y a des structures pour cela, Manuel Ruffez, mais elles sont peu visibles et les agriculteurs ont du mal à s'y retrouver.
Par exemple, les chambres d'agriculture à travers tout le pays ont chacune leur cellule d'accompagnement. Seulement voilà, pas une ne porte le même nom que l'autre. Unifier, rendre plus visible, voilà le premier pari. Ces cellules s'appelleront désormais toutes Réagir. L'important étant, selon Sébastien Windsor, le président des chambres d'agriculture, de détecter les problèmes le plus en amont possible.
Plus on l'identifie tôt, plus c'est facile, avec un peu de solidarité, avec un peu d'accompagnement technique qu'on sait amener, de ramener l'agriculteur pour retrouver de la sérénité, retrouver des couleurs économiques. Il faut faire savoir qu'on est là pour ça, que ça restera discret, que ça ne saura pas, mais qu'en tout cas, on peut aider.
Il y a aussi le numéro Agri-Écoute, joignable jour et nuit, 7 jours sur 7. Des aides à la relance, des aides à la reconversion, des initiatives de tutorat ou de mentorat. Et puis l'aide au répit, mise en place par la Sécurité sociale agricole. Jean-François Frutero, le représentant de la MSA.
On s'aperçoit qu'on a des gens qui sont en situation d'épuisement complet et qui aujourd'hui n'ont plus capacité à se prendre en charge et à se projeter dans l'avenir. Donc il faut se reposer. Ça nécessite un accompagnement pour continuer à faire fonctionner l'exploitation. Donc ça, c'est un gros travail aussi qu'on mène. Mais voilà, cette aide au répit, elle est majeure pour que les gens se positionnent dans l'avenir.
Un site répertorie tout cela, site baptisé agricollectif.fr.
Manuel Ruffez. Le contre-la-montre a un peu changé le classement sur le Tour de France. C'est le vainqueur du Tour 2020 qui s'impose à Laval. Tadej Pogacar. Bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir Sébastien.
Van der Poel reste de peu en jaune, mais il continue d'impressionner.
Oh oui, quelle sensation. On a déclenché le chrono, on a vibré avec lui jusqu'au bout, porté par l'ambiance incroyable ici à Laval.
De la part de Mathieu Van der Poel.
Et au final, le petit phénomène, comme le surnommait son papy Raymond Poulidor, a encore frappé. Soyons honnêtes, on ne le pensait pas du tout capable de résister aujourd'hui aux favoris du Tour sur un contre-la-montre taillé pour les spécialistes de la discipline. On en parlait hier, lui qui nous répétait depuis dimanche soir n'avoir pas préparé l'épreuve. Eh bien, on a eu tout faux, faut le reconnaître. Il a travaillé jusque tard hier soir pour écrire son histoire.
C'est la deuxième fois cette année que je suis sur ce vélo, donc ouais, j'avais vraiment pas pensé. Quand j'ai dit hier que j'allais pas conserver le maillot, c'était vraiment ce que je pensais, mais ce matin, quand j'ai fait la reconnaissance, c'était quand même un parcours qui me parvenait bien. Il y avait vraiment beaucoup d'encouragement et je suis vraiment heureux de garder le maillot encore une journée au moins.
Et Van der Poel qui va donc pouvoir de nouveau profiter de sa popularité, comme on dit ici, avec une journée de plus, le maillot jaune sur les épaules et de plus en plus d'ailleurs de Van der Poupou pan sur la route.
L'autre homme fort, Fanny, c'est Tadej Pogacar, vainqueur du Tour l'an dernier. Il est déjà idéalement placé pour un doublé.
Oui, on va pas dire que tout est plié, mais bon, c'est vrai que le Slovène a un peu assommé la concurrence. Un vainqueur de l'étape à plus de 50 km/h, 1 minute 18 d'avance sur le gallois Geraint Thomas, 44 secondes sur Primoz Roglic. Pogacar, bien sûr, satisfait.
L'objectif, c'était de ne pas perdre de temps, et j'en ai gagné, donc je suis vraiment content, et je suis excité pour la suite. C'est vrai que prendre le maillot jaune, ça aurait été encore mieux. J'espère l'avoir dans les prochains jours, mais là, j'ai vraiment de bonnes sensations, donc c'est super.
Pogacar, un vainqueur loin devant Julien Alaphilippe, 14e seulement du chrono. Hier, j'avais misé une pièce sur lui pour le voir en jaune, c'est raté. Le Français nous a confié à l'arrivée qu'il n'avait pas les jambes.
Faut pas oublier l'objectif numéro un, pourquoi on est venu ici, c'est pour gagner des étapes, pas pour gagner le tour. Donc j'ai pas à être déçu d'aujourd'hui. C'est sûr que j'aurais aimé avoir de meilleures jambes, mais je suis quand même plus que satisfait de ma première semaine pour l'instant.
Et Julien promet déjà de chercher de nouvelles occasions d'attaquer, on a hâte. L'image du jour, Sébastien, c'est encore le public, omniprésent au bord des routes, au point, nous dit Valentin Madouas, que c'est impossible de lever le pied, lui qui voulait faire le chrono tranquille.
Le début, il y a beaucoup de public, on a tendance à être poussé. Même moi qui le faisais tranquille, je regardais le capteur, je faisais la vache, on va un peu trop vite.
À propos de public, sachez que la spectatrice à l'origine du chute collectif samedi a été retrouvée. Elle est actuellement en garde à vue, entendue à Landerneau. L'occasion de vous rappeler les consignes de sécurité si vous allez voir le Tour de France au bord des routes.
Et ça commence dès demain. Merci Fanny Lechevestrier et Lucien Lefebvre en direct de Laval. Demain pour la cinquième étape, sixième étape, j'ai un doute. En tout cas, c'est 160 km entre Tours et Châteauroux. On termine avec de la culture. Ça fera du bien pendant les vacances qui approchent. Le ministère de Roselyne Bachelot lance vendredi au Mucem à Marseille, la deuxième édition de l'été culturel. Bonsoir Jacqueline Petroz.
Bonsoir Sébastien.
L'idée, Jacqueline, c'est de rapprocher les artistes de tous les publics.
Si tu ne vas pas à la culture cet été viendra à toi.
Merci Jacqueline Petroz. On verra ça plus tard.
D'accord.
Je vous interromps Jacqueline parce que c'est votre dernière intervention en direct à l'antenne de France Inter. Et on préfère parler de vous avec notamment Corinne Pellissier qui vient d'entrer en studio, avec laquelle vous avez co-dirigé le service culture pendant 6 ans.
Avec un grand plaisir.
Vous n'étiez pas au courant. Corinne, non. Vous avez préparé un zapping.
Voilà, pour vous embarquer un petit peu avec nous dans les coulisses de ces 6 années de collaboration, de complicité dans le roller coaster de l'info culturelle. Vous dire à quel point, par sa bonne humeur, son rire inimitable, Jacqueline aurait été un peu notre boussole et même un peu plus. Merci à toi, Jacqueline, d'avoir si fidèlement secondé le service pendant toutes ces années. Merci pour l'attention que tu as donnée à chacun d'entre nous, les crises de fou rire, les petites blagues qui savaient toujours faire retomber l'attention et qui ont su séduire bien au-delà des frontières de notre bureau. De Karl Lagerfeld à François Hollande, en passant par un nombre impressionnant d'attachés de presse culture qui ont toujours réclamé ta venue pour couvrir un événement. Tous sont tombés sous le charme, Jacqueline, de tes reportages et de ta collection de petits pulls roses. Alors tu me fais mentir aujourd'hui, les bleus. Mais surtout, ne change rien, reste un peu punk et ne nous oublie pas, même si c'est peut-être un peu la honte après ça.
France Inter, il est 7h30, Intermatin dimanche, Jacqueline Petroz.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
5, 4, 3, 2, 1, bonjour. Attention aux conditions de circulation sur les routes d'accès aux stations de sport d'hiver. Les équipements sont obligatoires à partir de 1000 mètres.
Le journal avec Jacqueline Pétrose, bonsoir.
Intermatin samedi, Jacqueline Pétrose.
Livre en poche avec Jacqueline Pétrose, donc bonjour Jacqueline.
Et pour l'heure, avec Jacqueline Pétrose, les autres événements de cette journée.
Bonsoir.
Attention, sujet spécial Nicolas Demorand ce matin, la haute couture. Hier chez Lacroix, c'était l'explosion de couleurs, figurez-vous, un défilé dans lequel le créateur a mis ses 25 ans d'expérience. Et Jacqueline Pétrose, vous avez été conquise.
Coupée en deux. Dans la grande salle du Centre Beaubourg, le silence se fait. Les dizaines d'invités retiennent leur souffle.
33% des Français souffrent de phobie. Un exemple de phobie, Jacqueline ne supporte ni l'avion, ni l'ascenseur.
J'ai la phobie de l'avion, comme beaucoup de gens. Et puis surtout, j'ai la phobie des ascenseurs. Et ça, dans la vie quotidienne, c'est assez dur parce que d'abord, il faut de bonnes jambes. Mais c'est vrai aussi que ça peut peut-être même empêcher d'avoir un boulot, parce que si c'est au 25e étage d'une tour, il est évident que je ne me présenterai même pas pour aller chercher cette place.
Vous écoutez France Inter, très belle année à tous, nous sommes le 1er janvier 2005, il est 7h.
Bonjour.
Le journal avec Jacqueline Pétrose, bonsoir.
Bonsoir.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Ben voilà.
Ouais, Jacqueline. Sourire inimitable. Alors, c'est pas tout à fait terminé.
Ah bon,
voilà, parce qu'il y a eu aussi une longue carrière à France Inter et pas seulement au service culture. Et du coup, d'autres camarades ont eu envie de te rendre un petit hommage. Donc, je te propose d'écouter un message de Valéria, Emmanuel. Ah.
Je sais que tu vas rougir en nous écoutant, mais c'est une bien petite peine que nous infligeons à quelqu'un qui a l'outrecuidance de nous abandonner après seulement 42 ans de vie commune. Jacqueline Baudrier était PDG de Radio France quand tu as débuté. Les PDG, tu en as vu passer 12 en tout. On comprend bien que tu préfères partir avant la 13e. Mais ceux qui t'écoutent aujourd'hui tous les jours parler de culture ignorent que tu as eu une première vie à France Inter. Tu étais alors la meilleure assistante d'édition de la maison. Claude Guillaumin ne présentait pas un 13 heures sans toi. Et il n'y avait que toi pour lui expliquer qu'il venait de se planter en annonçant à l'antenne comment calculer l'heure d'été. C'est même à tes mesures qu'on a construit le premier bocal de France Inter, l'endroit où on enregistre toutes les correspondances de région et de l'étranger. Aujourd'hui, on peut te l'avouer, Jacqueline. Tous tes collègues et tes successeurs ont souffert à cause de ça. Parce que tous, ils mesuraient en général le double de ta taille, ou plutôt, je crois que c'est toi qui mesurais la moitié de la leur. Yvan Levaille t'a permis de t'inscrire au centre de formation des journalistes en cours du soir durant 2 ans. Et c'est à partir de 1994 que les auditeurs t'ont découverte à l'antenne à toutes les heures possibles. Des flashs de nuit, du soir, aux journaux, de ta chronique sur les livres de poche au fameux journal des régions, qui te permettait de mettre en valeur le boulot des 44 radios locales de France Bleu. Parce que ta force, ce que tu es, ce qui te rend unique, ce n'est pas seulement ton talent, mais le fait de l'avoir mis si souvent au service des autres, pour faire en sorte que leur travail soit plus facile et plus efficace. Et c'est comme ça que tu as longtemps été rédactrice en chef du week-end, arrivant même à sourire lorsqu'on te disait « On n'a pas grand-chose pour lundi, mais Jacqueline, tu trouveras bien ce qu'il manque ce week-end, n'est-ce pas ?» Et des merveilles tu en as fait aussi lorsque tu occupais le poste si stratégique de préparation de la matinale. Ensuite, c'est au service culture que tu as fait des heureux, les musées, tes chers BD et tous les autres sujets que tu as traités, y compris toutes les nécros. Tu es d'ailleurs sûrement la record woman du genre. Si c'était possible, j'aurais demandé à Karl Lagerfeld, qui a tant apprécié bosser avec toi à l'époque de ta rubrique mode, de venir témoigner ici que tu es la fille la plus classe de France Inter. J'espère que tu te contenteras de l'entendre de notre bouche. La seule chose quant à nous qui nous console de ton départ, c'est de savoir que tu habites tellement près de la maison de la radio qu'on arrivera bien à te convaincre de venir très souvent boire des coups avec nous aux ondes. Et pourquoi pas aussi déjeuner avec nous à la cantine ? Oh, on peut rêver, non ?
Ça, je suis pas sûre que...
Ne le fais pas, Jacqueline, ne le fais pas.
C'est pas conseillé, Jacqueline.
Non, faut pas le faire.
Je crois que c'est la première fois qu'on entend Valéria Emmanuel aussi longtemps à l'antenne.
Absolument.
Et ça, j'en suis très fière.
Grâce à toi. Merci, Jacqueline.
Merci, Jaja. Qu'est-ce que j'ai envie de dire, Jaja ? 5, 4,
3, 2, 1, 0.
Juste un petit mot pour vous remercier tous et vous dire que dans cette maison, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à tout ce que j'ai fait. Et surtout, j'ai fait beaucoup de choses et c'est une maison qui le permet. Et puis, on est toujours au cœur de l'histoire. Donc franchement, c'est un métier tellement merveilleux qu'on fait l'histoire, nous, on la voit se faire. Et puis, on est une rédaction exigeante. Je peux dire aux auditeurs qu'on n'est pas facile à gérer, qu'on est toujours en train de râler, qu'on est toujours en train de dire pourquoi. Et que, justement, une rédaction impertinente, c'est une rédaction vivante. Continuez à nous écouter.
À bientôt.
Merci, Jacqueline.
À très bientôt, Jaja. Merci pour tout. Pas à la cantine. Hein. En non, face, si tu veux, pas à la cantine. Allez.